Alexandre Bellaola, vous êtes donc arrivé en studio aujourd'hui avec une bibliothèque.
Oui.
Pourquoi ?
Une bibliothèque ambulante. Tout simplement pour dire que l'Afrique bouge, l'Afrique écrit, l'Afrique parle. C'est vrai qu'il y a à peu près une trentaine d'années et avec deux livres dans le rayon sur la cuisine africaine.
Donc et là, ça bouge.
C'est le tout dernier. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il porte le nom d'un restaurant dont les gens prennent des risques. C'est-à-dire de sortir un livre par rapport à un restaurant. Et ça, c'est impressionnant.
Il est là, sur mon bureau.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Un pied ici, un pied là, le cœur ici et la tête là-bas. Parfois, il y a des projets qui tissent des liens et qui font qu'une autre terre se dessine. Une terre riche de rêves et follement généreuse. Cette terre-là a un nom composé de trois lettres. Il se trouve sur la couverture d'un livre, justement, celui dont parlait Alexandre Bellaola. Une terre d'asile, de retrouvailles entre quelque part ici et là-bas. Une terre chaleureuse et souriante. Bienvenue à la famille BMK. La famille oui et non, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour à tous, Fatoumata, Sekou, Fousseini, Abdou, Abdoulaye, Djikine. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. En tout cas, on est très contents de vous recevoir à notre table. Bienvenue. Fatoumata et Sekou, vous êtes les parents de Fousseini et Abdoulaye, les fondateurs donc de BMK, le restaurant, les restaurants BMK, parce qu'il y a deux établissements. On a envie de dire restaurant, mais ce sont aussi des épiceries, des librairies, parce que moi, quand je suis allée à la Folie Bamako, il y avait également des livres que je n'avais jamais encore vus, donc j'ai pu lire aussi et m'instruire. Et donc ce livre, génial et beau, BMK Cuisine d'Afrique de Paris à Bamako, publié chez Hachette, qui est un livre choral et d'une richesse incroyable, un concentré de vous et de votre histoire. Vous êtes ici, à RFI, une partie de la famille, pas tout le monde, on est d'accord, d'autant qu'il y a la famille de sang et puis l'autre. Qui est bien plus grande. Le village BMK, moi j'ai envie de vous demander, aux uns et aux autres, quels sont les goûts et les saveurs de cette famille-là et de votre enfance, Sekou par exemple. Si vous pouviez me raconter un souvenir de quand vous étiez enfant, vous mangiez quoi ?
C'est surtout le mafé, la pâte d'arachide cuite dans la marmite, qui dégage une odeur assez agréable. Déjà, ça donne l'appétit avant de le mettre dans la bouche.
On est d'accord.
Voilà.
Et d'ailleurs, j'ai de la chance parce que votre femme en a apporté un mafé. Oui. Je la remercie encore. Fatoumata, un mafé partagé, vous aussi, un souvenir comme ça de votre enfance. Alors, vous n'étiez pas, contrairement à votre mari, Gabou. Vous étiez au Mali, mais vous, à Bamako. Qu'est-ce qu'on mangeait enfant à Bamako ?
Du riz avec la sauce d'Akatine. On dit sauce d'arachide.
La sauce d'arachide.
Voilà, c'est... L'arachide, bon, on le plante. Après la plantation, on enlève, on met dans la casserole, on le fait griller. Après, dans le temps, il le mettait sur une pierre, voilà, pour mixer, pour que ça soit de la pâte.
Pour pouvoir l'écraser.
Voilà, pour l'écraser. Mais là, maintenant, comme, bon, ça existe toujours. Mais avec les machines, maintenant, on le fait directement à la machine.
D'accord.
Mais c'est ça qui fait la pâte d'arachide. Et on fait la bonne sauce avec ça.
Donc ça, c'est vous. Donc, arachide pour ses coups. Pour le papa, arachide pour la maman. Lequel de vous deux est fan d'arachide ?
Nous deux.
Tous les deux.
Nous deux.
Question bête. De toute la famille.
De toute la famille. Ouais. Oui, parce qu'il manque autour de la table un frère et une sœur.
Exactement.
Ouais.
Qui auraient répondu la même chose.
Ça, ce sont des saveurs. Est-ce qu'il y a aussi des parfums que vous retenez ? Parce que vous avez grandi, Abdoulaye et Fousseini, vous avez grandi et vous êtes nés en France. Les parfums comme ça, les saveurs de votre enfance aussi, Abdoulaye ?
Je citerai le soumbala, qui est également utilisé dans le mafé et qui n'a pas une odeur forcément très agréable et très ragoûtante, mais qui apporte beaucoup de saveur au plat. Et donc voilà, vu que le mafé, c'est un plat que ma mère cuisinait et cuisine d'ailleurs toujours quasiment toutes les semaines, c'est vrai que cette odeur est assimilée à ce plat et au petit plat de...
Au petit plat de maman. D'accord. Le soumbala, quand même, c'est osé. Hein. Une bonne partie des auditeurs, en tout cas à RFI et Ouest Africain, connaissent très bien cette épice qui est Netetou également dans d'autres pays africains, qui a une odeur effectivement très forte. Vous associeriez, vous aussi, le soumbala à ce plat ? Est-ce que c'est ce qui fait la signature du mafé de votre mère ?
Au-delà de l'amour qu'elle met dans ce plat, non, pas forcément. Effectivement, c'est une odeur dont on n'était pas forcément fier au début. En fait, du soumbala, même dans l'histoire de BMK, on n'en mettait pas forcément au début. parce que comme vous le dites, c'est assez fort et ça peut être un peu repoussant. Et malgré tout, effectivement, ça fait partie de l'histoire du mafé. Du coup, notre mère non plus, quand on était petit, n'en mettait pas forcément dans la préparation, de peur de nous rebuter et qu'on fuit un peu un plat qui fait partie de notre patrimoine. Mmh. Et puis de la même manière que notre mère a petit à petit commencé à en mettre pour nous faire connaître le vrai mafé, nous aussi dans les restaurants, on a commencé à en mettre et finalement, c'est tout aussi apprécié. Donc voilà, ça fait partie de notre histoire, effectivement.
Et du coup, les clients réagissent comment? Parce que c'est vrai que ça donne un goût différent, mais on ne peut pas forcément exprimer cette différence.
Exactement, on ne le sent pas comme pas mal d'ingrédients, je ne sais pas, asiatiques, le durian, par exemple, voilà, des choses comme ça. Une fois que c'est travaillé, en fait, ça donne des goûts et des saveurs un peu différents, alors qu'effectivement, brut, ça ne donne pas forcément envie. Donc le soumbala, c'est pareil. Une fois que c'est dans le mafé, que c'est mélangé avec l'arachide, les différents ingrédients, on sent qu'il y a quelque chose en plus, mais on ne sent pas forcément le soumbala.
Et ce qui est incroyable, c'est que quand il n'est pas là, du coup, il manque après.
Ouais, effectivement, un connaisseur, s'il n'y est pas, il le sent qu'il manque quelque chose.
Il est bon, mais...
Il est où ce goût-là, ce goût-là là.
Voilà, justement, je pense que ça a été conseillé à la maman, comme c'est la maman qui a préparé toutes les recettes. La mère t'amène de ne pas trop forcer la dose. Voilà.
C'est maman qui a préparé toutes les recettes. Alors, Fatoumata, je crois aussi qu'en plus du soumbala, dans votre mafé, parfois, il vous arrive d'y glisser un peu de gombo.
Oui, il y a le soumbala, il y a le jabairano aussi.
Ah, jabairano, je
connais pas. Jabairano, ça, c'est l'oignon qu'on met au soleil. Okay. Après, on le fait sécher, on le fait griller d'abord, après on pile, et là, ça fait en poudre. C'est les deux qui vont avec la sauce d'arachide et mafé.
D'accord.
Voilà. Il faut vraiment ces deux.
Okay. Je note. On mettra sur la page internet les secrets.
Voilà, j'en ai même amené un petit peu, vous allez voir après.
Je vais goûter, même mieux.
Je vais dire soumbala et jabairané, je l'ai. Voilà.
Je disais tout à l'heure que la famille ne s'arrête pas au sang. Là, je vous copie complètement parce que c'est ce qui est écrit dans votre livre très clairement, que BMK, donc le restaurant que vous avez créé en 2017, c'est une famille, c'est un peu comme un arbre. Et cet arbre a des racines qui seraient vous, vos parents, votre famille proche presque, quelque part, et puis des branches sur lesquelles se sont ajoutées des gens qui font maintenant partie de cette famille, de la Bamakul Gang, qui est quand même un sacré nom qui donne envie. C'est quoi les valeurs qui vous ont bercé? À quel haut et quel type de valeurs est-ce qu'on vous a fait grandir, vous, Fousseini et Abdoulaye?
La famille, effectivement, et puis c'est exactement comme vous l'avez dit, la famille au sens large. On a toujours baigné avec cet état d'esprit, dans la mesure où quand on était petit... Quand on voyait notre famille, c'était toujours tonton, tata, cousin, cousine. Et on n'avait pas forcément l'explication du lien de sang exact. En fait, nos parents considéraient un oncle comme un frère, une tante comme une sœur. Du coup, depuis qu'on est tout petit, en fait, même certaines personnes qui sont ni des oncles ni des tantes, on les appelait tonton, tata. Alors qu'il n'y a pas forcément le lien de sang, parce que justement, en Afrique, c'est ça. Quoi. La famille, ce sont les personnes avec qui on a envie de vivre, avec qui on partage des choses, des valeurs de respect, des valeurs de partage, des valeurs de convivialité. Et du coup, c'est comme ça qu'on a grandi, et c'est comme ça qu'on a construit nos relations. Et puis, dans un second temps, c'est comme ça qu'on a construit notre projet.
Oui, parce qu'il est grand, ce projet, quand même, aujourd'hui. Moi, j'ai envie tout de suite qu'on se pose sur une des branches de BMK, si vous voulez bien.
Bien sûr.
Sur cette branche, il y a un oiseau qui pâtisse très très bien, qui fait des très bons gâteaux. Elle s'appelle Fatoumata Diarra. Son nom de femme professionnelle, c'est Papille Exotique. Elle a rencontré BMK presque par hasard, mais en fait, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit non, en fait, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas, Fatou?
Il n'y a pas de hasard. Comme le disait Pelé-Loire, il n'y a que des rendez-vous. Parce que dans la vie, quand on fait des rencontres, je crois qu'on rencontre les personnes qu'on doit rencontrer. Donc non, il n'y a pas de hasard.
Quel est le goût de votre relation avec la famille BMK, si elle devait avoir un goût, ou en tout cas, de quelle nature est-elle?
Assez marrant de définir la relation par un goût. Ce serait une relation savoureuse, une relation sucrée, pimentée. Je définirais ça comme ça.
Eux parlent de vous comme étant leur sœur d'adoption.
Ah, je suis très touchée. Moi, je pourrais parler de la même sorte. Ce sont des frères pour moi. Et j'irais même plus loin. Je dirais que les parents, en fait... Quand je les ai rencontrés, j'ai eu l'impression que nos familles étaient interchangeables. C'est-à-dire que je pense que ça doit être peut-être l'éducation, les valeurs aussi partagées. Ils m'ont vraiment fait penser à mes propres parents, les parents de Fousseini et d'Abou. Et donc, je me suis dit, oui, c'est la famille, ça pourrait être mes frères, ça pourrait être mes cousins. très très spontanément, je me suis dit ça.
Vous les avez rencontrés, vous, parce que vous fréquentiez leur premier établissement. Comment s'est lancée votre amitié ?
C'est vrai que, pour l'anecdote, quand j'ai rencontré Fousséni, c'était dans le premier restaurant, le restaurant de la Gare de l'Est. Il venait d'ouvrir très peu de temps auparavant. Et quand j'y suis allée, en effet, le papa était là. Donc, premier coup de cœur, tout d'abord, par rapport au cadre, à l'accueil. Parce qu'il faut savoir, c'est que le papa accueille très, très bien. Bon, les deux frères aussi, mais le papa, il apporte vraiment quelque chose. Du coup, je me suis sentie à l'aise. Et puis, tout de suite, la première fois que j'y suis allée, je leur ai proposé des desserts adaptés à la carte de leur restaurant, des desserts africains, si on peut dire ça comme ça. Et après, tout s'est fait très naturellement parce que le papa a validé. Il a goûté, il a été le premier cobaye heureux, on va dire. Il a goûté ainsi que Fousséni et il a donné son aval très très rapidement. Il m'a dit que mes gâteaux étaient très très bons et voilà, c'est parti comme ça en fait.
Très naturellement. C'est un peu comme ça que vous décririez aussi votre relation tous ensemble ?
Complètement, ouais. Tout s'est déroulé très naturellement, mais pour tout, pour l'échange, pour le partage des projets, pour les discussions, tout était fluide et coulait de source. Et c'est ça qui a été frappant dans cette relation. Vous savez, quand on a le sentiment de connaître des personnes depuis très très longtemps et que tout est d'une simplicité, d'une fluidité, voilà, il n'y a pas de complications. Les choses se font et... tout se passe très très bien et puis il faut dire que ce qui les caractérise, moi je trouve tous, c'est ce respect des gens, ça paraît basique, mais ce respect et cette mise en avant aussi systématique. Eux, ils sont toujours très modestes, en retrait et ils ont le don de valoriser les gens. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez unique hein, dans cette relation et par rapport à leur relation aux autres. Moi, je l'ai constaté pour en avoir discuté avec d'autres amis qui travaillent avec eux. Et c'est toujours ce qui revient, c'est ce côté respect, valorisation des personnes qui les entourent, en règle générale. Vraiment, je me sens très chanceuse de les avoir rencontrés, que le destin les ait placés sur ma route, parce qu'il n'y a pas de hasard.
Fatoumata Diarra, qu'est-ce que vous pensez de l'évidence dont elle parle ? C'est que vous vouliez parler ?
Écoutez, vraiment, c'est réciproque. C'était un plaisir pour nous et une chance pour nous de l'avoir connue. On s'est rencontrés, je ne la connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler. On s'est rencontrés au premier restaurant, à la Gare de l'Est, effectivement. C'est Fousséni qui me l'a présenté. Moi, j'ai posé la question, c'est qui c'est dedans ? Ah, c'est une pâtissière. OK. La restauration, j'ai exercé pendant plus de 40 ans.
Voilà, donc on ne vous la compte pas à l'envers.
Voilà, donc... écoutez, j'ai dit, on va voir ça à laisser.
Et c'était quoi le gâteau qu'elle avait
fait ? C'était du chocolat. Hein, c'est mon gâteau au chocolat. Bon, je me suis dit déjà... la cuisine africaine, chocolat. Bon, c'est vrai, c'est un produit, le chocolat, c'est...
C'est un produit africain, africain mais pas encore exploité, pas,
voilà. Donc ça, déjà, c'était la méfiance. Il fallait que je voie ça sur mes propres yeux et le goût. Bon, j'ai dit, OK, on lui a donné tout de suite une place. Comme on a dit, vraiment, on l'a adopté tout de suite.
Comment c'était ? Alors, dans le premier restaurant, on est en 2017, on est à juillet, donc c'est l'été, il fait chaud. Ouais. On va ouvrir ce restaurant. Qui est en cuisine ? Qui est en salle ? Abdoulaye ?
Tout le monde est un peu partout. Mais principalement, on va avoir ma mère et Fousséni en cuisine et moi qui suis plus en salle.
Et donc, c'est un apprentissage pour vous parce que vous aviez fait des études de restauration, vous connaissiez un peu le métier ou vous vous êtes dit, on va se lancer ?
On n'est pas du tout de la restauration, tous les deux. Mais bon, c'était un projet qu'on avait à cœur depuis un petit moment. Et on a estimé qu'avec de la bonne volonté, du travail, des idées et de la convivialité, il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et donc, on s'est effectivement lancé cette formation particulière. Et oui, les premiers jours, c'était Fousséni qui était avec ma mère.
Et c'est vos recettes de cuisine qui étaient faites à quatre mains, puis servies, du coup, à BMK.
Exactement. Ouais.
Et du coup, vous les connaissiez, les recettes ? Vous vous êtes entraîné un petit peu avant ?
Alors moi, personnellement, non, pas forcément. Enfin, je les connaissais parce que depuis notre enfance, voilà, on traînait un peu dans les pattes de notre maman dans la cuisine. Mais non, pour le coup, on avait une confiance aveugle. Hein. Il y a même des choses qu'on a découvertes en ouvrant le restaurant, dans les recettes, dans la préparation. Donc, on connaissait le résultat des recettes, le goût. On était persuadés que ça plairait, mais après la préparation, non, c'était complète confiance en notre maman.
D'accord. Et du coup, en termes de transmission des recettes, parce que j'ai ouï dire que généralement, les mères disent bah, « tu regardes ». Tu sens, je sais pas, tu comprends pas là normalement, tu sais si.
Ouais, oui, ça c'était moi.
Ah, ça c'est vous, Fatoumata, absolument, c'est vous, on est d'accord. Ah,
oui, parce que quand on faisait la cuisine tout le temps, ils étaient à côté de moi. Le problème est que, alors là, nous, en Afrique, on a toujours préparé.
Au feeling.
Voilà. Alors chaque fois quand je cuisinais, ils me disaient, alors là, tu mesures combien? Tu mets combien de kilos? Alors là, c'est ça qui était bloquant.
Le livre, par exemple, quand c'est mis en route. Pour les recettes, on les a demandé à la maman, écoute, il y a un livre qui va se lancer, bon, il faudra que tu nous donnes les recettes. Bon, ben, donc, il n'y a pas de problème. Bon, et comme nous, on a Abdoulaye à la maison, bon, il dit, maman, tu fais quel plat aujourd'hui? Bon, ben, j'ai fait le mafé. Donc, elle s'est mise dans la cuisine et fait ça comme si c'était un plat familial. Je mets ça. Et finit son plat. Bon, Abdoulaye, il arrive, maman, t'as mis quoi et quoi? J'ai mis l'arachide, j'ai mis l'huile, j'ai mis... Mais Abdoulaye avec son cahier, maman, je t'ai donné une balance, je t'ai donné une mesurette. Faut pas faire ça, là. Non, les sens, c'est pas ça. C'est pour un livre, parce que c'est pour apprendre ta cuisine. S'il n'y a pas de mesure, et ça peut pas marcher.
Ça peut pas marcher,
donc ouais. C'est Abdoulaye qui, vraiment, pendant très, très longtemps, bon, ça a été une école pour la maman. Ça. Je me suis mis aussi, j'ai dit...
J'ai envie de dire quelque chose aux éditeurs, juste. Vous qui nous écoutez, sachez qu'il y a un ingrédient, en fait, dans la réussite de ce monde BMK. C'est quand même l'optimisme. Parce que sans optimisme, on n'y arrive pas.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Sud-africain Bangeziwe Mablanda sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes dans la chaleur et les sourires de la famille BMK. BMK, la Bamakool Gang de restaurants à Paris, l'Afrique au cœur. Et l'envie de partager l'optimisme pour valeur. On a adoré Sangé. Abdou, c'est vous qui avez choisi. Est-ce que vous pourriez nous raconter pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson?
Alors, j'ai choisi cet artiste parce que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Il est sud-africain et en fait, c'est de la folk afro. Il fait un mélange entre la musique traditionnelle et plus contemporaine. Et ça incarne bien toute cette nouvelle génération d'artistes qui sont en Afrique, qui vont piocher dans différentes inspirations et faire
différents répertoires
pour proposer des musiques modernes, mais toujours avec ce côté très traditionnel.
Un peu ce qu'on peut trouver dans votre livre aussi d'ailleurs, parce qu'on a toute une partie où on va au-delà de l'Afrique telle qu'on peut la connaître, au-delà d'un poulet yassa, au-delà de Thieboudienne, auquel on est un peu plus habitué pour découvrir des plats sud-africains, ghanéens. Et également, ça participe de ça aussi, cette réflexion ?
Oui, absolument. Je ne vais pas dire que cette musique est à notre image ou l'inverse, mais c'est vrai que je me reconnais un peu dans cette démarche de cet artiste qui est assez jeune, comme nous, et qui essaie de proposer quelque chose d'un peu différent en puisant les racines de ses parents, de sa culture. Mmh. Et en le faisant un peu à sa propre sauce.
On est d'accord. S'inspirer des anciens, s'inspirer d'avant pour pouvoir construire demain. C'est un bon projet, ça. D'ailleurs, quelle est l'histoire que vous vouliez raconter avec BMK ? Parce que j'ai l'impression que c'était un peu chevillé au corps dans votre histoire de frère que de raconter une histoire.
C'est faire le lien entre ce patrimoine qu'on possède et dont on était, encore une fois, pas forcément fier quand on était plus jeune.
Vous avez grandi à deux endroits différents.
Alors, on a grandi à Belleville, dans le 19e arrondissement.
Qui est un arrondissement très métissé.
Exactement, voilà. C'est un vrai melting pot dans lequel il y avait énormément de culture. On entendait parler toutes les langues. On voyait différentes recettes. Vous parliez tout à l'heure de goût et d'odeur qu'on retrouvait dans notre enfance. Et en fait, ça en faisait aussi partie. C'était un mélange entre différentes saveurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Du coup, on a grandi avec ça. On a grandi aussi avec pas mal de souvenirs d'Afrique, que ce soit des souvenirs que nos parents nous apportaient en nous racontant un peu leurs enfances, leurs histoires. Je me souviens de nombreuses soirées où on était sur un matelas à écouter les histoires d'enfance de nos parents, qui nous paraissaient extrêmement lointaines, forcément. Donc voilà, ils ont essayé toujours de nous transmettre cette culture, mais qu'on gardait plus ou moins à la maison. Et petit à petit, on s'est rendu compte du fait que c'est extrêmement riche, notamment en parlant à nos amis, à nos entourages, parce que c'est loin de ce qu'ils connaissent, c'est très différent et c'est tout aussi riche. Et du coup, petit à petit, on a commencé à en être fiers, à vouloir le valoriser. Et c'est tout ce qui a impulsé notre projet, la volonté de valoriser notre patrimoine, notre histoire, notre culture, des produits, des goûts, des saveurs. Encore, on y revient.
À Paris aussi, parce que ouvrir un restaurant, on va pas dire aux saveurs africaines, parce que c'est très très moche quand même, comme nom, mais de valorisation des produits africains, de partage des cultures en fait, tout simplement. Ça pouvait sembler un peu osé, vous, Sekou Fatoumata, quand vous êtes arrivé à Paris, vos premières années ici, vous pouviez mettre en valeur justement votre culture, l'un et l'autre ?
Franchement, non. Déjà, on était dans une situation un peu à l'écart, une communauté, on vit entre nous. Mmh. On ne pensait pas essayer de s'intégrer, à mélanger nos cultures avec notre pays d'accueil. Mmh. Eux, ils sont venus et ils ont compris que non, on ne peut pas rester là à l'écart de la société où on vit. Il faut participer. Parce que je me rappelle au début, son histoire de restauration, c'est venu de l'école. À Fusini pour la restauration. Bon, mais quand il y avait les fêtes à l'école, les parents apportaient leurs contributions en plats, en boissons. Mm-hmm. Fanta, il a amené des plats africains, ou des jus gingembre, vraiment les racines qu'il faisait piler avec son mixeur et tout, il a amené ça à l'école. Mm-hmm. Bon, donc les copains de Fusini, les parents, ils trouvaient ça bon. Ils disaient, ah, Fanta, bon, donc du coup, on l'appelait Fanta, c'est quoi ta boisson? On a trop... Bon, mais ça rentrait dans l'oreille de Fusini. Bon, en entendant ça, il me dit, papa, moi, je veux faire restaurant. C'est pour moi, j'étais dans... J'ai dit, non, écoute, moi, je me suis investi pour vous, pour les études, autre que de la restauration.
Alors, c'est
monsieur,
un vrai métier,
monsieur,
mon fils.
Il a fait ses études, et monsieur, il a fait ses études, il a fini, il travaillait dans une grande boîte pour des conseils. Bon, un jour, il m'a dit, papa, mon idée, j'ai pas oublié. J'ai dit, mais quelle idée? Mais papa, la restauration africaine, tu sais, papa, on a des bons produits en Afrique. C'est pas comme toi tu penses, tu veux le faire autrement. Ah, ouais. Ah bon si. Donc il a préparé son business.
Il vous a montré qu'il était déterminé. Donc... Fatoumata, vous êtes inquiétée pour eux quand ils vous ont dit on se lance, on ouvre un restaurant
Oui, j'étais pareil comme mon mari. Comme on ne connaissait pas bien le milieu de la restauration. Alors pour nous, la restauration, c'est peut-être aller faire plonge, machin, tout ça. On ne savait pas que c'était autre chose.
Bah surtout, vous ne pensiez pas que vous alliez vous retrouver en cuisine.
Voilà. En plus, je me suis dit, ils n'ont jamais fait la restauration, ils n'ont pas fait d'études sur la restauration. Ouais. Alors là, j'ai dit, pourquoi pas, on va essayer ensemble.
Ouais. Et vous avez été surpris par l'écho qu'il y a eu, parce que tout de suite, ça a marché, j'ai l'impression, Abdoulaye.
Assez rapidement, il y a quand même eu les premiers jours qui étaient forcément un petit peu durs, parce qu'on avait beaucoup de gens qui rentraient dans la boutique, qui disaient « Ah, c'est sympa, on repassera ». Parce qu'il y a l'épicerie également, donc des produits d'épicerie. Donc effectivement, les premiers jours, c'est surtout des badauds qui passaient pour nous féliciter, beaucoup de gens, africains ou non. Mm-hmm. Puis au fur et à mesure, le bouche à oreille a pris. Puis ça a été la presse et puis il y a eu un effet boule de neige. Et aujourd'hui, on est content de ce qu'on a fait. Mais oui, forcément, on a été assez surpris de voir l'intérêt pour ces cuisines. Et en même temps, on se dit que finalement, c'est assez logique parce qu'il n'y avait pas de raison que ça ne prenne pas avec toute la qualité des produits, toutes les saveurs, toute la richesse de l'univers africain. Parce qu'on parle également d'un lieu, donc c'est une déco, c'est une ambiance, c'est de la musique. Et finalement, c'est naturel que ça prenne.
Bon, vraiment, ils ont tout fait. Bon, on a porté tout pour que ça soit dans les couleurs africaines.
Ouais.
Les masques, les coussins, tout a vraiment été mis pour qu'on soit dans un milieu africain. Dans la salle, on voit directement dans la cuisine tout ce qui se passe.
Oui, c'est complètement ouvert. Est-ce que vous pensez que c'était le bon moment ? Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment, peut-être que vous l'avez remarqué aussi, Fatoumata Sekou, qu'il y a un regard différent peut-être maintenant sur les diasporas africaines, un intérêt différent aussi sur les différents produits, les farines, ou est-ce que vous notez quelque chose comme ça ?
Moi, franchement, c'est avec une fierté, parce que quand je reviens à Fousséni, quand il a voulu se danser dans cette aventure, par rapport aux produits africains, il m'a dit « Papa, on a des bons produits africains, mais tu vois, il faut les mettre en valeur. » Parce que, par exemple, dans les épiceries, chez les Chinois, tu verras, les paquets sont en vrac par terre. Mais ces produits-là, bon, on peut le faire en épicerie fine. Et aussi, il y a une chose que j'ai craigné pour les plats africains, que, bon, des fois, c'est souvent lourd. Mais papa, on peut améliorer ça. Mmh. On va faire des trucs. Et effectivement, je n'étais pas déçu, parce qu'il y a des plats que je ne connaissais pas, qu'eux, ils m'ont fait découvrir, les plats véganes.
Ah, oui.
Qui aurait pensé un plat africain vegan?
On dit l'Afrique, africain... c'est demain. C'est le futur. Elle est dans le livre, la recette du mafé végétarien. Non, on dit qu'on peut remplacer la viande.
Absolument.
Anoula, corrigez-moi.
C'est ça. Mais c'est maman qui me disait que finalement, c'était pas si surprenant que ça d'avoir des mafés végétariens, parce que quand tu étais petite, vous n'aviez pas forcément les moyens de manger de la viande. Donc finalement, c'était assez courant de manger un mafé végétarien. On ne l'appelait pas comme ça.
C'est pour ça que ça change, ça évolue. Ça dépend aussi où est-ce qu'on a grandi, où est-ce qu'on vit. Et c'est encore une autre idée que vous bottez en touche dans votre livre, les piments notamment. Alors le piment, on est d'accord. Ça aussi, c'est une surprise de découvrir qu'il n'est pas du tout dans tous les plats africains. C'est une cuisine qui est relevée, qui est épicée avec du goût, des épices, mais pas forcément forte. Ça, c'est parmi les idées reçues que vous bottez en touche, Abdoulaye.
Oui, en effet, les plats sont épicés, comme vous le dites. Le piment, c'est une affaire de goût. Je pense que maman n'en met quasiment pas dans ses plats. Mon père l'aime beaucoup, donc il va le prendre dans le frigo, il le met à côté de son plat. Et...
C'est ça, en fait.
Oui, parce que le piment, comme les gens qui ont des problèmes d'estomac, alors là, il ne faut pas le manger. Voilà. Et nous, on le met dans la sauce, ça donne le goût, c'est bon. C'est... Même si tu n'as pas envie de manger, surtout on est dans un pays qui est froid, alors en mettant le piment là-dedans, ça donne l'appétit.
Ça réchauffe un peu.
Ça réchauffe.
Ça réveille l'appétit. Mais de toute façon, vous êtes délicate, donc vous mettez un peu de purée de piment à côté.
Voilà.
Et donc celui qui veut renforcer son plat pimenté, eh ben, le peut. Sur la couverture de votre livre, qui est très beau, il y a trois noms. Alors il y a les vôtres, Abdoulaye et Fousséini Djikiné. Et puis, il y a aussi celui de Maher Iliès Cabaret, qui m'a raconté un petit peu sa relation avec le restaurant et avec vous tous, évidemment.
BMK, c'est tout d'abord l'entreprise, le restaurant dans lequel je travaille, mais bien au-delà, ça fait partie vraiment de mon quotidien. Et BMK, c'est une grande famille, la Bamako and the Gang. Donc, c'est vraiment une équipe avec qui on échange tous les jours. Et voilà.
Il y a cette notion de joie de vivre. Est-ce que c'est une valeur qui caractérise clairement BMK ?
Tout à fait, oui, vraiment. On essaye vraiment que l'équipe soit top, vraiment de bonne humeur et que ça se ressente dans le travail tous les jours. On essaye de vraiment faire en sorte que ça soit présent, mais aussi donc, pour l'équipe, mais aussi pour les clients. Que ça soit une ambiance chaleureuse et détendue, agréable, familiale pour les clients aussi.
Vous êtes l'une des autrices du livre BMK qui est sorti chez Hachette. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Ça a été, on va dire, un travail qu'on s'est réparti à trois, donc avec Abdoulaye et Fousséini. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment aller au-delà de simples recettes et justement de coucher, comme on dit, sous papier toute l'histoire de BMK, la vision qu'on a, la vision de nos restaurants, de la cuisine africaine. Et donc, c'est pour ça qu'on a réparti les recettes en fonction des étapes de la construction du projet et des restaurants. Donc ça a été un travail à trois, mais aussi avec l'équipe, les cuisiniers, avec la famille élargie, avec les chefs partenaires avec qui on travaille régulièrement. L'objectif, c'était vraiment d'impliquer un plus grand nombre de personnes. Comme on dit, c'est une famille élargie, donc tout le monde est impliqué.
Vous parlez dans le livre également de construire un monde meilleur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est justement que ce soit par la joie de vivre qu'on vient d'évoquer, passer un moment agréable, et je pense que le bonheur est contagieux. Donc en passant un bon moment, normalement ça se répand ensuite, mais aussi un monde meilleur à travers la cuisine. Vraiment faire découvrir les produits sains, des cuisines saines, variées, responsables et engagées comme on essaye de le faire tous les jours.
Est-ce que vous avez des racines africaines, vous, ou pas du tout ?
Alors, je suis un quart malgache. Ma mère est métisse malgache, donc on peut dire que d'une certaine façon, oui.
Et vous vous retrouvez, du coup, dans ces valeurs que vous partagez ?
Oui, oui, tout à fait, parce que la cuisine malgache est vraiment extrêmement variée, extrêmement saine aussi. Il y a de nombreuses recettes et de produits incroyables qu'on retrouve à Madagascar. Et l'histoire et la culture qu'on essaie de transmettre, ça rejoint l'histoire du livre. Et c'est vrai que c'est d'une certaine façon un moyen pour moi aussi de me retrouver. Je suis qu'un quart, donc je suis allée que quelques fois à Madagascar, mais de me retrouver aussi là-dedans.
Je suis qu'un quart, c'est pas mal.
Et en y allant, en y retournant sur les traces, c'est vrai que ça passe aussi par la cuisine, par les moments échangés à table avec la famille et les valeurs qu'on essaie de transmettre chez BMK.
La cuisine et la table. Quand nous avons échangé, je vous avais demandé si c'était possible pour vous de préparer une question à leur poser.
Alors, ma question, ça serait dans nos rêves les plus fous. Où est-ce qu'on pourrait partir donc à l'étranger, dans notre pays, ouvrir un nouveau restaurant ? Dans nos rêves, où est-ce qu'on pourrait aller ?
Alors,
une question,
se lance.
Le bon cadeau, merci Marie-Liès, je t'aime. Bah, pourquoi pas faire le voyage en sens inverse, hein, finalement. On a fait Bamako-Paris via notre histoire, pourquoi pas faire Paris-Bamako ? Parce que la restauration au Mali, on ne la connaît pas forcément très bien. Parce que quand on retourne au Mali, forcément, on mange à la maison, avec la famille, etc. Mais pourquoi pas, voilà, parce que le but du projet, c'est de faire prendre conscience de la valeur de la cuisine et des produits africains auprès de personnes qui ne la connaissent pas et aussi auprès d'Africains. Voilà, on parlait tout à l'heure de fierté qu'on n'avait pas forcément, etc. Donc pourquoi pas aller à Bamako, ouvrir un restaurant, autour de cuisine authentique. Voilà, exactement.
Cuisine saine, respectueuse de l'environnement, pleine d'amour aussi, colorée, c'est vous qui le dites, hein, ça. Et généreuse, moi je suis parfaitement d'accord avec ce constat. C'est ça la cuisine africaine. Enfin, j'allais faire une bêtise. J'allais dire, c'est ça la cuisine africaine. Pas bien. Les cuisines africaines. En tout cas, l'écho des cuisines avec des produits bruts et en tout cas, saines et respectueuses de la terre. Donc, retour à Bamako ?
Oui, oui, hein, je pense que c'est pas mal.
Okay, vous m'emmenez avec vous ?
Oui, oui.
Ouais, on y va. Tout ça, Bamako.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Mali de nous y est.
sûr. Djanida Seck, évidemment. En Kamaliba, c'est ce titre choisi par vous, Fousseini, mais j'apprends que la chanteuse fait partie de la famille.
Je l'apprends aussi.
Et pourquoi vous avez choisi ce titre? Qui veut dire vérité?
La première raison, c'était surtout sur les rythmiques que j'adore. On parlait tout à l'heure de souvenirs d'enfance. Des rythmiques comme ça, c'est exactement ce qu'on entendait quand on était petit, les chants des griots que notre maman mettait en boucle sur des cassettes. Quand on était petit, très honnêtement, on l'appréciait pas forcément à sa juste valeur. Et là, c'est en grandissant ce sont des sonorités extrêmement particulières qu'on apprécie maintenant.
Faites écouter à vos filles, du coup?
Alors, pour être honnête, pas encore, mais il faudrait. D'ailleurs, peut-être que papy le fera la
prochaine fois. C'est cool, allez.
Ou mamie, je ne sais pas. du coup, mamie, en même temps que ces leçons de Bambara qu'on souhaite qu'elle donne.
Oui, on a commencé.
Les leçons de Bambara écouter RFI en Bambara.
Exactement.
On va essayer.
Alors, quand Fatou disait tout à l'heure que vous savez mettre les autres en lumière et les mettre en avant, on en a deux exemples vraiment flagrants dans votre livre. C'est-à-dire que vous mettez non seulement l'équipe avec laquelle vous travaillez, donc Marie-Liesse, évidemment, qui est une amie d'enfance, je crois.
C'est ça.
Abdoulaye. On voit les photos des cuisiniers, on voit qui fait quoi. Il y a un vrai partage. Et puis évidemment, Fatou est l'exemple aussi de tous ces partenaires, ces personnes que vous avez rencontrées, que vous mettez en recette d'ailleurs également dans le livre. Ça, c'est fondamental pour vous. On ne peut pas réussir tout seul.
Exactement. De la même manière que nous-mêmes, on n'a pas réussi tout seul. Au final, dans ce projet, notamment les quatre personnes autour de la table... ont eu un grand impact, la maman pour ses recettes, le papa pour son expérience, et puis même Abdou et moi, on parlait beaucoup, notre papa a beaucoup parlé des origines du projet, parce que peut-être que moi j'en parlais plus, mais finalement c'est une idée commune qu'on avait avec Abdou, et je pense que sans lui je me serais sûrement pas lancé, sans moi je sais pas si ça serait lancé, mais effectivement tout seul on n'y arrive pas, et ce livre comme notre histoire c'est une accumulation, une multiplication de pas mal de facteurs, pas mal d'interventions, certaines hasardeuses, d'autres un peu plus recherchées. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a appris. Tout seul, on n'y arrive pas. Et puis, c'est plus sympa de le faire à plusieurs, tout simplement.
C'est plus riche, tout simplement.
Exactement.
En fait, on fait grandir cet arbre. D'ailleurs, BMK, il y a une troisième branche à BMK qui s'appelle BMK Horizon, qui est une association.
L'association BMK Horizon, toujours dans la volonté de valoriser notre patrimoine et nos richesses. On a fait quelques voyages au Mali, notamment dans les terres natales de notre papa à Gabou, dans la région de Kaï, où on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de terres agricoles extrêmement riches, extrêmement fertiles, qui n'étaient pas exploitées. Du coup, on a eu l'envie de continuer cette valorisation en accompagnant à l'exploitation de ces terres. Le but, ce n'était pas de s'approprier ces terres, de faire pousser des choses qu'on vende nous-mêmes. C'était d'accompagner des agriculteurs locaux. Et du coup, pour faire ça, on voulait vraiment distinguer cette activité de l'activité opérationnelle des restaurants. Donc, on a créé une association qui a commencé là-bas, dont le but est vraiment de valoriser l'Afrique à travers ce type d'action, à travers des actions sociales, agricoles, etc. Donc voilà, on a voulu scinder tout ça. On a monté cette association et petit à petit, on va essayer de mettre en place différents projets. Et on a beaucoup de clients qui nous demandent à faire partie de cette association. Donc ça fait partie des prochaines étapes.
D'accord.
D'intégrer d'autres idées, d'autres participants à cette association.
Vous avez raconté à Abdoulaye que jusqu'à vos 20 ans, vous êtes un peu resté au Mali, à Bamako. Puis vous avez pu quitter Bamako pour aller dans le village de votre papa. Puis après, vous êtes allé dans d'autres pays. Cette rencontre d'autres pays africains, elle vous a inspiré quoi ?
Ça a toujours été très enrichissant. Parce qu'effectivement, nous, on connaissait que le Mali. Et même au Mali, on connaissait que Bamako. C'est que très tardivement qu'on a découvert Gabou, le village natal de notre père. Et c'était finalement triste de réduire notre propre conception de l'Afrique à celle du Mali. Et on ne pouvait pas prétendre à faire un restaurant sur les cuisines d'Afrique sans avoir exploré autre chose que le Mali. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de voyager, que ce soit au Sénégal, au Ghana, au Togo, au Kenya et d'autres pays, à Madagascar. Dans ces pays, on a fait beaucoup de rencontres, rencontrer des gens, découvrir des produits, découvrir des techniques de cuisine différentes, des cultures différentes. Je pense que ce qui est assez fréquent dans les cultures de manière plus générale, c'est entre les pays anglophones et francophones. C'est vrai que les matières premières, les manières de cuisiner, de travailler les produits sont assez différentes. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a fait tous ces voyages et on a hâte des prochains.
Si je me souviens bien, Abdoulaye, quand nous nous sommes rencontrés, vous m'avez parlé d'un livre que votre frère vous avait conseillé et que vous m'avez conseillé.
Oui, absolument. Il s'agit de L'enfant Peul d'Amadou Mpateba. En fait, de toute façon, ce livre, il est dans la bibliothèque familiale depuis un moment.
En tout cas, il y en a un extrait, mais alors mis à la sauce BMK, dans votre livre, à savoir les manières de manger avec les mains, qui est un apprentissage et une leçon de vie également, en tout cas dans le texte original, dans le vôtre aussi. Un peu. Et cette approche-là, elle est importante aussi. Elle est multisensorielle, multiculturelle. C'est la littérature, c'est la culture africaine, on va dire, dans tous ses pans.
Bah, on a la chance d'avoir un lieu physique, le restaurant. Et c'est vrai que ça nous permet de faire la promotion des cultures africaines et pas que culinaires. Donc, vous parliez en introduction des livres qu'on peut feuilleter. Il y a l'ambiance sonore, c'est une playlist à 100% afro. Ça va être le côté artistique avec des photos qu'on a pu mettre. On a également un site internet dans lequel on présente les différents projets et c'est aussi un moyen pour nous d'élargir et de ne pas parler que de cuisine, mais également de littérature, des contes qui ont bercé notre enfance. Et voilà, on a cette chance d'avoir une communauté qui nous suit, la possibilité d'avoir un micro pour nous exprimer et parler de nos cultures. Donc on essaie de le faire et pas que sur les cuisines.
Votre clientèle, est-ce qu'elle s'est mélangée? Est-ce qu'on va avoir des gens de la diaspora, des Africains de passage, des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que l'Afrique? On se situe où maintenant aujourd'hui?
On a eu de tout, on a de tout. Comme vous le dites, des gens de la diaspora comme nous, qui sont nés en France, qui ont grandi en France et qui ont envie de faire découvrir à des amis non africains ces cuisines-là. On a des personnes qui sont même africaines, qui vont au Mali, qui sont de passage en France et qui ont encore envie de manger africain et donc qui viennent chez nous.
La cantine.
Il y a notamment un ancien ministre malien pour qui c'était la petite cantine où il venait régulièrement. On va avoir des touristes, beaucoup d'Américains, d'Afro-Américains qui ont cette volonté de retourner un peu aux sources et qui sont contents de venir goûter les cuisines du Mali. On a des gens qui ne connaissent pas du tout ces cuisines-là et qui ont entendu parler par des amis dans la presse, à la radio. Donc voilà, vraiment de tout et c'est une de nos plus belles fiertés, c'est d'avoir vraiment des gens de tous les horizons, tous les âges. Et c'est toujours... très plaisant à voir dans la salle, toute cette mixité.
Ouais, d'être arrivé à fédérer de cette manière. Alors, lui n'est pas encore de la Bamakoul Gang, mais vous avez tout pour vous entendre. Il s'appelle Haroun Asso, il est chef mauritanien, chef formateur au Refugee Food, qui est une association, et créateur, avec le goût du monde, des recettes de poche. On vous propose, pour aujourd'hui, un flan de baobab.
Des baobabs pour les sportifs et aussi pour les cuisiniers. Pour nous, baobab, pendant notre enfance, en fait, vous voyez, c'est des arbres qui dépassent les 20 mètres. C'est composé pour nous, le baobab. On n'utilisait pas la perce pour les enlever parce qu'on dit que les personnes qui enlèvent du fruit de baobab avec la perce, ce n'est pas des guéris. Et nous, c'est composé. C'est de grimper jusqu'à haut, les récupérer et de manger là-bas et descendre les coquilles vides pour dire « j'ai monté dans le baobab ». J'ai enlevé beaucoup de fruits et j'ai mangé là-bas et les coquilles, on les jette. Et ça, c'est un synonyme d'un guerrier. Pour le goût de baobab, en fait, pour de nombreux jeunes Africains qui étaient au lycée ou au collège, ça les rappelle ces crèmes glacées que tout le monde a pu goûter. Ça rappelle des très bons souvenirs.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu as choisi de nous faire un flan aujourd'hui,
oui.
De baobab.
J'ai choisi de faire un flan. Vous voyez le fruit de baobab qu'on consomme en glace, mais en période de décembre, janvier, moi, quand je pars en Afrique, c'est frais, les gens, ils ne mangent pas de la glace. Et du coup, on se retrouve avec des stocks de baobab qu'on ne peut rien faire. Après, une fois à la maison, j'ai essayé ça avec ma cousine et j'ai vu que ça marchait très bien. J'ai dit, je vais faire une recette avec ça pour tout le monde qu'on puisse continuer à le vendre. Et c'est pour cela que j'ai décidé de le faire en forme de flan, assez rapide à faire, très facile et très accessible. On a besoin de 3 cuillères à soupe de poudre de baobab, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger que j'utilise pour le parfumer, 90 g de sucre avec 3 œufs. Je commence à casser les œufs avec le sucre, je commence à les blanchir comme une omelette et là on rajoute notre poudre de baobab et les fleurs d'oranger. Le lait, je le chauffe une moitié, on le chauffe pour ne pas avoir de bulles dans l'appareil quand on va le faire.
D'accord.
Et ensuite, dès que le lait il est chaud, on verse sur l'appareil à chaud et là on mélange tout. Et là, on verse le lait chaud, on mélange tout, on prend un ramequin, on les met dedans et on prend une couscoussière, on le cuit pendant 25 minutes. Pour vérifier la cuisson, en fait, il faut prendre une aiguille qu'on pique et voir si ça sort propre. Et là, on sait que c'est cuit. Et moi, l'astuce géniale que j'ai trouvée avec la famille, vous savez, quand on cuit le riz ou le couscous, il y a cette vapeur. Et moi, c'est dedans que je mets ces ramequins. Pour que les personnes puissent faire un dessert, en même temps, ils font leur plat. Et on le réserve au frais pendant 2 heures.
Le flan de baobab d'Haroun Asso, pour recette de poche. Alors, vous écoutiez attentivement Fousseini et Fatoumata. Vous hostiez la tête. Oui, ça se fait. Bon, pas mal. On va essayer. Ça vous dit ou pas? Ça vous inspire, ce genre de recette?
Oui. Le jus, oui, je connais, mais les recettes, là, je connais pas.
Eh ben voilà, faut tester.
C'est une découverte.
Voilà, ça, c'est une découverte.
Une découverte.
Ça,
ouais. Recette de poche, elle est écrite. C'est facile.
On le remercie beaucoup.
Voilà, ouais. Je vous en prie, c'est mon plaisir. Merci. C'est la fin de cette émission déjà. C'est la tradition de nous parler d'un ingrédient et d'un ustensile. Fousseini, le vôtre.
Alors, l'ingrédient, alors moi, j'ai apporté des noix de cajou qui sont dans mon sac. Alors la noix de cajou, parce que bah, déjà j'adore ça personnellement. Et puis aussi ça fait partie des trésors dont on a parlé qui ne sont pas forcément mis en avant en Afrique. Bien que les pays africains soient de très grands producteurs de la noix de cajou, très souvent c'est exporté vers des pays d'Asie et c'est décortiqué dans ces pays avant de revenir en Europe. Écologiquement et en termes de création de valeur, ce n'est pas terrible. Et du coup ce que j'ai apporté, c'est des noix de cajou qui sont produits et décortiqué et travaillé par des coopératives au Mali. Le but, c'est de refaire venir la valeur là d'où elle vient. Et un ustensile, je pensais à un petit mortier, parce que ça rappelle des souvenirs du pilon et du mortier, des sons qu'on entendait en Afrique, de la cuisine qui se fait avec des grands pilons et de grands mortiers. Mmh. Voilà, ce tac-tac.
Et la cajou avec laquelle on va pouvoir faire cette superbe recette de velouté plantain cajou,
hein,
qui est dans le livre. À vous, Abdoulaye.
Mais c'est une bonne tradition parce que moi, mon ingrédient, c'est la banane plantain.
Ah bah voilà.
Que j'adore frite. Enfin, c'est pas très original. C'est vrai que ça fait partie des plats que tout le monde connaît. Et c'est vrai que des alocos frites... bien, bien sucré, c'est très réconfortant. L'ustensile, je l'ai même apporté.
Ah.
Et je peux même vous dire qu'il a été utilisé par ma mère ce midi pour cuisiner le mafé. C'est sa cuillère en bois. Parce que voilà, c'est vraiment le symbole de notre mère qui fait mijoter son plat en touillant avec sa grande cuillère en bois.
Moi, j'ai amené le soumbala.
C'est l'ingrédient, l'ustensile tourne.
Dans une calebasse, ça montre la fête de mariage, les filles qui mettent des perles sur leur calebasse. Qui sortit ça et ça fait un son, ça remplace la musique et tout. C'est magnifique, c'est coloré et c'est un son agréable.
On n'a pas pensé à l'amener, c'est vrai qu'on en a à la maison.
C'est pas grave, on va se revoir. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Moi, je dis, si BMK n'existait pas, il faudrait l'inventer. Merci à vous
gentil.
Quatre. Pousseini, Abdoulaye. Sekou, Fatoumata. BMK Paris-Bamako, c'est à Paris, dans le 10e arrondissement, 14 rue de la Fidélité.
Et ils ont quand même un cousin qui est un grand chef, c'est Sada qu'il faut...
Ah mais oui, mais qui est en cuisine.
Ah oui, c'est quand même un élément essentiel qui est la Nutijo, qui participe à toute l'élaboration de tous les produits.
De toutes les produits, les recettes.
C'est le neveu.
Alors en tout cas, Sada, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pas rue de la Fidélité, mais c'était dans le 11e arrondissement, 40 rue Jean-Pierre Timbaud. En livre donc, BMK, c'est chez Hachette, avec de belles recettes et de belles photos, de la vitamine D à chaque page. Un clin d'œil et une pensée pour terminer cette émission à tous les anciens du foyer de la rue Barra à Montreuil, dont on sait que s'ils nous écoutent, ils auront tout de suite une petite image dans la tête et peut-être éventuellement une histoire de plat ou un goût. Et également à tous les taxiphones de Paris qui permettent aux uns et aux autres de rester en lien et de penser aux uns et aux autres. Et vous alors, à quelle saveur est-ce que vous avez pensé en nous écoutant? Peut-être un soumbala, un bon mafé, ça certainement. Racontez-nous sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66, sur les réseaux sociaux aussi et sur la page du Goût du Monde. Cécile Bonici a réalisé et mis en nom de cette émission. Merci beaucoup à elle et merci à vous tous de votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine.
La marche du monde.